Salut à tous. Il faudra agrandir le pupitre. Deux secondes, excusez-moi. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que vous avez mené le culte, l'adoration vers le Seigneur qui vraiment nous a apaisés, je pense, chacun d'entre nous. Je veux me réjouir aussi de voir René aussi, avec ses artères regonflées. Il est reparti pour un nouveau tour. Merci Seigneur, en tout cas. Alors aujourd'hui débute une nouvelle série. C'est une étude sur le sermon sur la montagne qui concerne les chapitres 5 à 7 dans l'évangile de Matthieu. J'ai l'honneur de commencer par les béatitudes. Je vais les lire. Alors, je les lis avec la traduction Second, la colombe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, ça peut peut-être changer avec la version que vous avez. Alors, les béatitudes commencent au chapitre 5, mais je vais commencer juste avant, au chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors Jésus est au début de son ministère. Il a appris l'arrestation de Jean-Baptiste et il part en Galilée, enseigner dans les synagogues, proclamer la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les malades et sa renommée grandit parmi le peuple. Une grande foule le suit avec ses disciples. Il monte sur une montagne pour enseigner. Une partie de la foule est là. Dans Matthieu 9, 36, Matthieu dit « En voyant ces foules, il fut pris de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et il dit à ses disciples « La moisson est grande et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Alors ces qualités, ou moi je dirais des bénédictions, qui sont mentionnées dans les béatitudes, ne sont pas pour l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui ne croit pas en Dieu. Elles sont pour ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Quand Jésus a dit à Nicodème, à moins de naître de nouveau, c'est-à-dire par l'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Seul l'homme ou la femme qui a reçu la vie éternelle par la foi en Jésus et qui se laisse enseigner et former par lui peut manifester ses qualités de Christ dans sa vie. C'est pourquoi cet enseignement est réservé aux disciples. Alors les béatitudes font apparaître des multiples qualités d'une personne chrétienne. Elles ne décrivent pas des groupes distincts. Il n'y a pas certains qui sont miséricordieux, d'autres doux, d'autres qui sont pour la persécuter. Non. Elles expriment les caractéristiques des enfants de Dieu. Elles ne sont pas réservées à une élite ou à une caste spirituelle qui sortirait du lot des chrétiens. Au contraire, en les mentionnant, Jésus dépeint ce que devrait être tout chrétien. Les béatitudes décrivent un projet de vie pour chaque citoyen du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit veut développer toutes ses bénédictions dans chaque croyant. Notre responsabilité est de les rechercher, toutes. Alors, il est plusieurs fois cité dans les béatitudes le mot « heureux ». En grec, c'est Makarios. Ce n'est pas le nom d'un attaquant brésilien, Makarios. Makarios souligne la faveur, la bénédiction de participer au royaume de Dieu. Jésus veut nous dire très bonne, très très bonne, est la condition de celui qui fait partie du royaume de Dieu. Le bonheur du chrétien est dans son espérance. Nous le voyons souvent dans la deuxième partie des béatitudes. Cependant, nous sommes déjà consolés par notre Dieu qui manifeste sa bonté, sa miséricorde tous les jours envers nous. Mais notre bonheur sera total, parfait, quand nous serons en sa présence et que nous régnerons avec lui. Alors je vais commencer par la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Je ne vais pas vous laisser répondre. Les pauvres en général sont ceux qui n'ont rien, qui n'ont aucun moyen, je ne dirais pas de subsistance, mais bon. Qui ont vraiment besoin de secours. À l'époque, en Israël, les pauvres étaient livrés à eux-mêmes et dépendaient souvent de la miséricorde des Israéliens, mais surtout de la dépendance de Dieu. Mais ici, Jésus décrit une pauvreté spirituelle qui n'a rien à voir avec la notion de pauvreté que l'on connaît. En réalité, tous les hommes sont pauvres en esprit, mais tous ne le savent pas. Beaucoup sont aveuglés quant à leurs conditions spirituelles. Ils pensent que tout va bien dans leur vie. Leur état de pécheur les empêche de voir leur pauvreté spirituelle. La pauvreté en esprit ne doit pas être confondue avec la faiblesse de caractère ou un manque de courage. En fait, le pauvre en esprit, c'est un croyant qui n'a pas une haute opinion de lui-même et qui, se plaçant dans la lumière divine, réalise sa misère. Il réalise qu'il est pécheur et qu'il n'a pas de ressources spirituelles pour plaire à son Dieu. Le pauvre en esprit reconnaît sa faillite personnelle, spirituelle, et confesse son indignité. Il comprend qu'il est totalement dépendant de Dieu. En fait, ici, il s'agit de véritable repentance. Et dans Luc 13, 18, 10, 13, nous en voyons un exemple. Je vais vous le lire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque celui-ci descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Le royaume de Dieu n'est pas accessible sur la base de nos mérites, de nos richesses, de notre puissance. Non. Il est offert à ceux qui sont méprisés, pauvres, à ceux qui savent qu'ils n'ont rien à donner. Ils sont écoutés, ceux qui implorent la miséricorde divine, ceux qui reconnaissent en toute humilité leurs conditions misérables devant Dieu et qui se soumettent à son autorité. Nous sommes des pécheurs qui avons un besoin constant de son pardon, de sa grâce et de son amour. Notre vrai bonheur consiste à imiter notre Seigneur, à nous tenir en sa présence et à y rester. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. On pourrait dire heureux les malheureux. Ça fait bien ressortir le paradoxe de cette béatitude, je trouve. Nous sommes malheureux quand nous souffrons d'une manière physique ou morale. Quand on n'a pas ce que l'on veut, qu'on a des soucis, quand on est aussi éprouvés par de diverses manières. Nous souffrons aussi quand un membre de notre famille souffre. Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit qu'il y a deux sortes de tristesse. Je vais vous le dire aussi, si je le retrouve. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que l'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Jésus parle de cette tristesse selon Dieu, celle qui mène à la repentance. Les chrétiens sont attristés parce que le Saint-Esprit leur a dévoilé leurs conditions devant Dieu. C'est une tristesse qui les amène à se repentir. Ce sont le péché et les conséquences qui en sont la cause. Devant notre péché ou celui des autres, notre réaction ne devrait pas être la colère, le jugement ou l'indifférence, mais la tristesse. N'oublions pas que la majorité des personnes que nous rencontrons sont perdues. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir une personne, de voir son état et de se dire « mais cette personne, elle n'est pas un Dieu, elle va mourir ». Enfin, moi, ça peut m'arriver et ça prend une dimension en moi qui me désespère. Jésus a pleuré en arrivant à Jérusalem, en voyant l'endurcissement lié au péché. Lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, qu'il va ressusciter, il pleure en voyant les conséquences du péché tragique de la mort, qui amène à la mort. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui pleurent seront réconfortés, consolés, par notre Seigneur, qui est le Dieu de toute consolation. Ésaïe 61. Je termine avec ça, cette béatitude. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser, de guérir plutôt, ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui sont dans Sion, ceux qui sont en tout cas endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel, qui manifeste sa splendeur. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Je trouve que c'est difficile de définir le mot doux dans notre monde. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas dans mon diction, dans mon vocabulaire, pardon. C'est pas un mot qui rentre facilement dans ce que je dis. Alors, c'est quoi être doux? Comment? Ouais. Selon Dieu. En tout cas, ce n'est pas de la faiblesse, ni un manque de confiance en soi, ni de la gentillesse naturelle. Un doux, c'est quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même, qui n'est pas préoccupé par le sentiment de sa propre importance, de ce que les autres pensent de lui. Je pense que les deux premières béatitudes amènent vers cela. Quand nous sommes brisés parce que Dieu nous a révélé notre péché, notre culpabilité, et que nous avons été amenés à pleurer sur nos péchés, cela produit en nous la douceur de cœur que l'on n'a pas naturellement. Nous sommes orgueilleux, naturellement, nous sommes orgueilleux, endurcis, imbus de nous-mêmes. Nous pouvons quelquefois montrer de la compassion à nos semblables, mais la douceur dont il est question ici est une douceur permanente qui existe dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par sa grâce, il a transformé nos cœurs et a produit en nous ses fruits par son esprit. Il nous a libérés de nos préoccupations, de notre ego, du « qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» du « comment on va se conformer aux standards de ce monde pour être accepté par nos amis, par la société, par nos semblables. » Cette douceur-là nous libère de notre vanité et nous amène à considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Ressembler à Christ, c'est manifester ses traits de caractère. Dieu veut voir le reflet de Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, et notre bénédiction sera que nous hériterons la terre lorsqu'il reviendra et que nous régnerons avec lui. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ce ne sont pas une faim et une soif ordinaires. C'est plutôt la soif d'entendre la parole de Dieu, qui découle d'une aspiration intense du cœur. Amos 8, 11 nous dit: voici venir des jours, c'est là ce que déclare l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. J'ai relevé aussi dans le psaume 63, au verset 1, ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. La justice dont parle Jésus ici fait référence à une vie conforme à la volonté de Dieu. Par justice, il veut parler de notre manière de vivre, droite, intègre, une vie qui soit agréable à Dieu. Elle englobe tous les domaines de notre vie. Elle se manifeste dans la vérité, la sincérité, dans nos relations humaines. Cette recherche de la justice honore notre Dieu. Cette faim et soif de justice ne sera jamais totalement satisfaite dans ce monde. Il nous faudra attendre que notre Seigneur devienne le berger qui nous conduit vers des eaux vives. Apocalypse 7, versets 16-17. Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil ni d'aucune autre chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin comme un berger et il les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans votre Bible, il y a peut-être des fois le mot bonté ou un autre mot. J'ai préféré le mot miséricordieux, même s'il n'est plus à la mode. La miséricorde désigne tout à la fois le sentiment d'un cœur touché par la misère d'autrui et l'aide que ce sentiment consiste à apporter. Elle est souvent liée à la grâce. Dans le livre de Ruth, on a un merveilleux exemple de la miséricorde de Dieu envers Ruth, qui était une Moabite. Le prophète Jonas aussi doit reconnaître à contre-cœur la miséricorde de Dieu envers les habitants de Ninive. À nous qui avons cru au sacrifice de Jésus à la croix, Dieu nous a accordé sa miséricorde. Nous voyons dans les évangiles combien Christ a été ému de compassion devant les besoins des hommes. Il guérissait les malades, il nourrissait ceux qui avaient faim, il ressuscitait les morts. Si nous prenons conscience de l'œuvre de Christ pour nous, de son amour immense, nous manifesterons les mêmes sentiments que lui face aux souffrances, à la misère et à la détresse des êtres humains. Nous verrons les besoins et l'aide que nous pouvons apporter à ceux qui en ont besoin, que ce soit nos frères et sœurs ou toute personne fragilisée par la dureté de la vie. La force de notre témoignage résidera alors aussi bien dans nos actes que dans nos paroles. Alors nous sommes appelés à témoigner de Jésus à nos semblables, avec sagesse, patience et humilité. En suivant les traces de notre Seigneur Jésus, nous ferons l'expérience de la miséricorde qui conduira à la vie. Alors maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors la loi exigeait une pureté rituelle que les sacrifices donnaient de manière temporelle et incomplète. Elle était le symbole de ce que Dieu voulait, la pureté de cœur, la pureté dans les actions, dans les paroles. En exigeant la perfection, la loi révélait l'état de notre cœur. Seul Dieu voit notre cœur. Le cœur désigne l'homme intérieur. Les Israélites concevaient l'homme comme un tout, avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels, psychologiques. Ils plaçaient le cœur au centre de contrôle de tout cela. Le caractère, la personnalité, la volonté, la pensée, les émotions captent quelque chose de la signification profonde du cœur. En sachant que le cœur est sous l'emprise du péché, pourquoi Jésus dit-il « Heureux ceux qui ont le cœur pur » Qu'est-ce qu'un cœur pur dans le sens où Jésus l'entend? Nous avons dit que le cœur est le centre de contrôle de toute notre personnalité. C'est lui qui a besoin d'être purifié. Un cœur purifié est un cœur qui a déclaré que Jésus est son Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Cette personne est sauvée. Celui qui est renouvelé par l'Esprit du Seigneur voit son cœur de pierre transformé en cœur de chair. Jésus habite nos cœurs par la foi. Il le transforme pour que nous puissions aimer Dieu, marcher avec lui dans l'obéissance de sa volonté. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Le Seigneur ajoute une merveilleuse promesse, car c'est ceux qui verront Dieu. À présent, nous vivons et marchons par la foi et non par la vue. Mais le moment viendra où tous ceux qui ont le cœur purifié verront Dieu. Dieu est esprit, le Fils éternel de Dieu et l'image du Dieu invisible. Un jour, nous verrons Dieu dans une gloire parfaite. Nous serons avec lui et nous l'adorerons éternellement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors il n'est guère de pensée qui préoccupe plus les esprits que la paix dans le monde, surtout en ce moment. Les conflits, les guerres semblent s'amplifier toujours plus et beaucoup vivent dans l'angoisse d'un embrasement mondial. Nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que le monde va à sa perte. Que depuis le jardin d'Éden, le diable a mis la rébellion dans le cœur de l'homme. L'inimitié avec Dieu. Mais l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la réconciliation. Christ a pris sur lui tous nos péchés et nos transgressions et les a cloués à la croix. Il est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec notre Dieu, notre Père. La paix est un effet de la présence de Dieu dans nos vies. Il est un Dieu de paix, son message est l'évangile de paix. Elle est un don de la grâce de Dieu pour celui qui croit. Elle est un fruit de l'Esprit. Alors nous sommes encouragés à poursuivre la paix, à la rechercher, à la procurer. Jésus dit, soyez en paix entre vous. La paix devrait caractériser nos relations. Nous devons être des artisans de paix, où que nous soyons. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et je continue. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je me perds. Nous avons vu que les béatitudes décrivent ce que tout disciple de Christ devrait être. Ils en sont le portrait. Dans cette béatitude, le fait d'être persécuté, insulté, rejeté, calomnié, montre aussi notre appartenance à Christ. Le chrétien n'est pas préservé des souffrances. Mais Dieu utilise sa souffrance pour sa sanctification. L'image du fondeur qui épure l'or jusqu'à ce qu'il voit son reflet est une image de ce que Dieu fait de nous. Il nous épure. Pour que nous soyons à l'image de Christ. Mais ici, il ne s'agit pas des souffrances de la vie quotidienne. Il est question de ceux qui souffrent, qui sont persécutés pour la justice. Nous vivons dans un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Le péché altère le raisonnement de l'homme. Vivre dans l'obéissance à Dieu, pratiquer sa justice, est étranger à leur raisonnement, leur conscience. Dans le cœur de l'homme se manifeste une hostilité envers les chrétiens et contre Dieu. Elle est due à l'endurcissement de leur cœur qui est prisonnier du péché. Je voulais vous lire Jean 15. Je ne l'ai pas, donc je ne le dirai pas. Alors, étant ambassadeurs de Christ, nous serons opprimés parce que nous marchons dans la justice de Dieu. La persécution veut produire en nous la peur. Elle veut nous décourager, nous priver de la joie du salut. Car un chrétien heureux et courageux est une menace pour le royaume des ténèbres. Ça, ce n'est pas une béatitude, hein, c'est ce que je dis. La persécution veut faire taire notre témoignage de l'annonce de l'Évangile. Seul l'Esprit de Dieu nous garde debout dans la foi en Christ devant la puissance des ténèbres. Comme les apôtres dans Actes 5:41, qui après avoir été arrêtés, battus, sortent de la salle du conseil, en se réjouissant d'avoir été jugé digne des souffrances, de l'humiliation pour le nom de Jésus-Christ. les souffrances liées au témoignage de notre foi. Nous pouvons nous réjouir de ces souffrances liées au témoignage de notre foi. Alors marchons comme les prophètes d'autrefois sur les traces de notre Seigneur, qui nous donnera avec certitude cette magnifique récompense qui nous attend dans les cieux. Alors les enfants de Dieu qui ont expérimenté la nouvelle naissance, dont Jésus parle à Nicodème, sont en mesure de vivre ces bénédictions. Nous savons que les normes de vie que Jésus donne à ses disciples sont en contradiction totale avec celles du monde. Dans le monde sont heureux les forts, les riches, les puissants, les égoïstes. Les enfants de Dieu sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Elles sont attristées par elles. Ils acceptent que les autres puissent penser d'eux ce qu'ils reconnaissent devant Dieu, ce qu'on reconnaît devant Dieu. Ils sont appelés à être doux, humbles de cœur et désirent grandir dans la grâce du Seigneur. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus ses enfants parce que l'on remplit les exigences des béatitudes, mais c'est parce que l'on est fils et fille de Dieu par sa grâce que l'on veut se conformer à ses exigences. Alors conformons notre vie à l'esprit des béatitudes et nous serons heureux.